Je vais sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y les gars.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, ça sortait.
Je sors encore plus.
T'avais la fête, t'avais les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est vraiment trop intéressant.
Allez-y,
allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
les jambes.
Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu, je vais mettre aux yeux.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sortis tous avec nous.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours accompagnée de Samuel à l'animation. Bonjour Samuel.
Salut Marie, comment ça va ?
Ça va bien, et toi ?
Ça va, ça va.
Chaudement, comme toujours, en ce moment. Aujourd'hui, on a le plaisir donc de recevoir deux personnes de l'AFRATAPEM, École d'art-thérapie de Tours. Nous sommes avec Louise Tuffet et Marianne Doquet. Vous êtes toutes les deux donc art-thérapeute et enseignante. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, comment est-ce que vous définiriez l'art-thérapie à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler ?
D'accord. L'art-thérapie, c'est une thérapie qui exploite le potentiel artistique d'une personne pour améliorer son bien-être, améliorer sa qualité de vie. Et ça s'adresse à des personnes qui peuvent avoir des difficultés, des troubles de l'expression, de la communication et de la relation notamment.
Souvent, on va entendre parler de la psychothérapie, qui est se sentir mieux par la parole. Et bien, l'art thérapie, c'est pareil, c'est répondre à une souffrance, mais par l'art.
Voilà.
Et donc, pour présenter un petit peu l'AFRATAPEM, qu'est-ce que c'est et depuis combien de temps est-ce que ça existe ?
Alors, l'AFRATAPEM, c'est une association française. Donc, AFRATAPEM, ça veut dire Association française de recherche et application des techniques artistiques en pédagogie et en médecine. Il faut savoir que cette association, elle existe depuis presque 50 ans. Elle fête ses 50 ans l'année prochaine. Et elle est là pour former les art-thérapeutes à leur futur métier.
Et donc, quels sont les parcours pour devenir art-thérapeute ?
Il existe plusieurs voies pour devenir art-thérapeute. Donc la formation de l'AFRATAPEM à Tours, elle va demander notamment d'avoir un bac plus 2, donc un niveau 5, et une pratique artistique donc qui est reconnue, et même en autodidacte, du moment qu'on peut prouver en fait un engagement public ou professionnel qui est lié à l'art. Ou alors aussi, on peut avoir un bac plus 3, mais 3 ans d'expérience dans le domaine de l'art, ou l'enseignement, le soin, l'accompagnement à la personne aussi, et aussi justifié d'une pratique artistique. Ensuite, on va remplir un dossier de candidature. Et si ce dossier de candidature est retenu, on est convié à une journée de présentation, de sélection, et puis... Et puis voilà, il y a un entretien.
Voilà, on peut intégrer l'AFRATAPEM qui dispose d'antennes. Alors, c'est une association tourangelle, mais elle a des antennes aussi à Lille et à Grenoble, notamment parce qu'elle permet d'effectuer, c'est une formation d'un petit peu plus d'un an qui permet après d'aller vers le diplôme universitaire. Et donc, on a des liens aussi avec les facultés de médecine. Mmh. On peut effectuer un DU en allongeant le temps de formation. Et du coup, c'est intéressant aussi d'aller jusqu'à ce stade-là et de travailler aussi avec les universités de médecine dans ce cadre-là.
Donc on peut avoir des médecins ou des pharmaciens art-thérapeutes ?
Tout à fait, oui. Alors il y a l'AFRATAPEM, qui est l'école tourangelle qu'on vient un petit peu représenter aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il existe d'autres courants. Et puis il y a aussi d'autres écoles à Paris, en France. Et puis il y a aussi parfois des DU d'art-thérapie qui sont soit destinés à des psychologues ou d'autres professions. Donc il y a diverses formations pour accéder à ce titre.
Et alors, donc, au sein de l'AFRATAPEM, quels sont les différents axes pédagogiques qui sont proposés et quelles seraient leurs spécificités ?
Les axes pédagogiques, alors à l'AFRATAPEM, donc, on forme donc, les futurs art-thérapeutes, on les accompagne à travers la validation de certaines compétences, que ce soit tant dans le domaine de la relation d'aide, de l'accompagnement thérapeutique. Donc on a beaucoup d'enseignements aussi autour de la psychologie clinique, parce que c'est une approche essentielle pour accompagner les personnes. On apprend aussi la méthodologie de travail pour devenir thérapeute. C'est-à-dire que ça passe par l'apprentissage aussi d'un protocole qui commence par un recueil de données pour pouvoir accompagner au mieux en connaissant vraiment les problématiques de la personne et en adaptant ses objectifs jusqu'à une démarche d'évaluation pour aussi être à même de restituer des bilans pertinents au sein des équipes de travail. Donc voilà les axes pédagogiques. Et puis on fait aussi des ateliers, des mises en situation professionnelles à travers divers jeux de rôle.
Des exposés.
On travaille aussi beaucoup sur les spécificités des techniques artistiques. Alors, on ne propose pas spécialement de formation artistique parce qu'on considère, et on sélectionne aussi sur dossier, que les étudiants doivent avoir un parcours déjà établi par rapport à la pratique artistique. Donc nous, on s'assure de ça. Et on propose par contre par ailleurs des ateliers spécialisés à certaines techniques artistiques en plus de la formation parce que en fait on a des étudiants qui ont des horizons très divers, il y en a qui font de la danse, il y en a qui font du théâtre, d'autres du modelage, et donc tout le monde n'a pas les mêmes choses à travailler, à développer. Voilà, si ça répond à peu près au niveau des axes pédagogiques. Marion, tu
Après, il y a peut-être aussi toute la partie développement de l'enfant aussi qu'on va aborder. Et puis, un point vraiment primordial dans l'apprentissage de l'art thérapie, c'est tout ce qui est neurophysiologie. Donc, c'est vraiment la connaissance des bienfaits neurophysiologiques de l'art. Qu'est-ce que ça apporte et dans quelles conditions on va venir utiliser ces bienfaits au regard de différentes pathologies.
Et parce que là, on en a déjà entendu un certain nombre. C'est vrai qu'ils ont l'air assez nombreux. Quels sont les principaux médiums artistiques travaillés donc, avec l'art-thérapie?
Et est-ce qu'ils sont travaillés avec des professionnels, du coup, par chaque type d'art?
C'est nous, les professionnels. Nous, les
professionnels. C'est-à-dire des intervenants extérieurs, artistes, qui peuvent venir transmettre des techniques artistiques, c'est ça? Comme j'expliquais, les étudiants, en fait, quand ils arrivent pour se former à l'art-thérapie, généralement, ils ont déjà des pratiques artistiques soutenues. Mmh.
C'est même obligatoire. À la FRATAPEM, c'est un prérequis d'avoir une pratique artistique. Et donc, dans ces différentes pratiques, il peut y avoir principalement, on va entendre souvent les arts plastiques. Oui. Dans les arts plastiques, il va y avoir ce qu'on connaît initialement, la peinture, le dessin, le collage, le modelage. Après, il peut y avoir tout ce qui est de l'ordre de l'expression corporelle avec la danse intuitive. Vous avez aussi le théâtre. La musique.
Qu'est-ce que domaine aussi. Arts peuvent être utilisés.
Il y a des marionnettistes aussi. C'est vrai qu'on l'entend pas
le
souvent.
Conte,
mais.
Le conte aussi, le conte thérapeutique, l'écriture.
L'écriture, tout à fait.
Qui est un domaine aussi.
Tous les domaines d'expression artistique.
Tous les domaines d'expression.
C'est ça.
Alors, mais tout le monde ne les travaille pas de la même manière. C'est-à-dire que tout le monde ne maîtrise pas, tous les arts thérapeutes ne maîtrisent pas tous les arts. Mais ils ont un domaine de compétences un peu spécifique, avec quand même un regard sur une diversité d'outils qui leur permet d'adapter au regard de la personne qu'ils accompagnent leur pratique. Mais ça part aussi très souvent d'une envie de la personne. Faut que la personne ait envie d'adhérer et puis de faire une pratique artistique particulière. Donc on part avant tout aussi des goûts et des envies de la personne. Mais tous les arts peuvent être utilisés. La vidéo aussi, on n'en a pas parlé.
La photo.
La photographie. Voilà. Et pour rebondir juste sur cette notion. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des arts qui permettent la production, le rapport à la production. Il y a une production qui est objectivable, qu'on peut mettre à distance, qu'on peut voir, qui est palpable d'une certaine manière, comme les arts plastiques, le modelage, tous les arts qu'a cité Marion. Et puis les arts propres à l'expression corporelle, que sont le théâtre, la danse aussi. On n'a pas parlé de la danse, je crois, mais si on en a parlé.
Oui,
pardon. La danse, alors qui sont des arts dont la production est inhérente à l'action. Et donc, à moins d'être enregistré, en tout cas, et là, dans ce cas, on peut laisser une trace, mais dans ces arts liés à l'expression corporelle, il y a un rapport à la temporalité et puis aussi au corps qui devient le moyen de la production artistique, qui est un petit peu différent et qui c'est aussi des considérations qu'on prend en compte dans l'accompagnement, parce que ça ne met pas en jeu les mêmes choses dans l'accompagnement.
On parlera d'art synchronique et d'art diachronique. Art synchronique, c'est les arts qui vont être réalisés en même temps. Alors que les arts diachroniques, c'est vraiment comme on disait, c'est la production va exister en dehors de la personne qui l'a produite. Et donc ces deux types d'arts là, c'est ça qu'on va travailler, et ensuite on va différencier un petit peu tout ça, et chaque art aura ses propriétés en fonction de la personne et de sa souffrance et de ce qu'on aura identifié comme axe de travail art thérapeutique.
Ben oui, parce que l'art-thérapie, alors, à qui ça peut être destiné ?
Eh bien, j'ai envie de dire à tout le monde. À tout le monde, toute personne en souffrance. On va entendre souffrance physique, souffrance psychique, sociale, souffrance existentielle, mais aussi en quête de sens, dans un cadre de ce qu'on appellera développement personnel ou professionnel. On va entendre souvent, par exemple, que l'art-thérapie, c'est bien pour les enfants. C'est ce qui est vendu, voilà, comme c'est très créatif, ludique. Alors, effectivement, c'est le cas, c'est bien pour les enfants, mais c'est aussi bien pour les adultes, les personnes âgées. Et ça peut aller de... ça touche les enfants, à l'enfant par exemple déscolarisé ou hospitalisé. Ça peut aller de l'adulte en dépression, en burn-out, ou qui a une maladie particulière ou spécifique. Et puis les personnes âgées en EHPAD qui ont été placées. Et puis ça peut toucher aussi toutes les forces de l'ordre, les pompiers, les militaires blessés psychiques.
Et voilà, oui, la problématique du psychotrauma qui effectivement se retrouve dans ce genre d'institution, mais qui peut se retrouver par ailleurs. Moi, par exemple, pour ma part, je travaille avec les demandeurs d'asile. Et on est vraiment dans la question du psychotraumatisme, de comment on peut venir réparer des choses de ces traumatismes à travers la pratique artistique.
Et ce qu'on aime vraiment préciser, parce que c'est toujours la réticence en fait qu'on entend quand une personne veut consulter, si elle n'ose pas consulter, c'est parce qu'elle ne sait pas pratiquer un art quel qu'il soit. Et du coup, elle va avoir cette interrogation. Et nous, on dit, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être artiste pour pratiquer l'art-thérapie. L'essentiel, c'est de venir en séance et d'expérimenter les pouvoirs, les bienfaits de l'art. Et il n'y a pas besoin d'avoir des compétences artistiques, puisque ce qu'on va développer, c'est vraiment ce qui se passe en séance au regard du processus artistique, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre en place du début de la séance jusqu'à la fin de la prise en charge, et tout ce qui va se passer, tout ce que la personne elle va vivre, elle va ressentir à travers l'art, c'est ça qu'on va regarder.
Disons que justement, on va en parler juste après de la construction d'une séance d'art-thérapie. Mais est-ce qu'on appelle encore les bénéficiaires d'art-thérapie des patients ?
Oui, dans la mesure où c'est dans le cadre du soin. Alors, l'art-thérapie, ça peut s'exercer en institution, mais aussi en libéral. Mais dans la mesure où, oui, c'est dans le cadre du soin, on les appellera plutôt que les patients. C'est vrai que ça, c'était une approche qui avait été développée, notamment dans le champ de la psychothérapie, d'appeler les bénéficiaires les clients. Étant donné... Il y a une indication médicale. Généralement, les gens nous sont adressés par des professionnels du monde du soin. Il n'y a pas toujours cette... il y a une indication, donc on va les considérer plutôt comme des patients.
Tout à fait.
Des patients.
Au regard du cadre thérapeutique qui est vraiment, qui est clairement posé avec, justement, comme on disait, avec la partie indication, mais aussi des objectifs spécifiques qui sont définis, un contrat de confidentialité. Et donc tout ça, au regard de la prise en charge qui est thérapeutique, à partir du moment où on parle de thérapeutique, de thérapie, on parlera de patient, parce qu'on est dans un accompagnement de soins de la personne.
Sachant que derrière cette notion de patient, c'est intéressant, il y a aussi quand même, malgré tout, l'idée de l'engagement de la personne. Ce n'est pas forcément passif. Enfin, l'idée, c'est d'aller au-delà du clivage soigné-soignant ou patient. Enfin, il y a cette notion et cette nécessité quand c'est possible, parce que malheureusement, parfois, par rapport à la maladie, au handicap, il peut y avoir justement des blocages et des difficultés d'engagement, que ce soit physique, psychique. Mais en tout cas, l'art-thérapie aussi a pour vocation d'autonomiser le plus possible la personne et de l'engager dans son processus de soins. Donc, voilà, pour répondre à cette question.
Donc on appellera ça un patient.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va faire une petite pause musicale avant d'y revenir. Que va-t-on écouter, Samuel ?
On va écouter Trio Sense et le titre L'Alémina sur Radio Campus Tour.
Écoutez Trio Sense avec le titre L'Alémina sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Je rappelle que nous sommes avec Louise Tuffet et Marion Dauquier, donc art-thérapeute à la Fratapem. Depuis Alors, pour par une volonté d'un petit peu contextualiser, depuis combien de temps l'art thérapie est-elle institutionnalisée et reconnue comme pratique de soins?
Alors, l'art thérapie, elle existe depuis bien plus longtemps qu'il y paraît. On a refait un petit point. Alors, on se dit, bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails historiques, mais elle est apparue principalement au travers de la psychiatrie dans les années 1870, où il y a eu un premier regard sur les dessins des malades mentaux. Et au fur et à mesure, elle s'est inscrite en termes de discipline, notamment en Angleterre, par Adrian Hills, qui a vraiment mis en mots le terme art-thérapie dans son ouvrage Art versus Illness. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu vraiment parler du terme art-thérapie. Et en ce qui concerne la fratapème en elle-même, elle est vraiment apparue dans les années 1970 à travers les travaux de recherche de Richard Forestier.
Qui est le créateur de l'école.
Créateur de l'école après en 1976.
Oui, et puis ce qui est intéressant aussi de dire par rapport à l'art-thérapie, c'est qu'il existe différentes approches, différents courants. Et comme, effectivement, comme le disait Marion, c'est par le prisme de la psychiatrie que s'est quand même développé l'art-thérapie. En parallèle aussi de l'avènement de la psychanalyse, l'art-thérapie s'est un petit peu orienté dans une dimension psychanalytique pendant longtemps. C'est-à-dire que la production artistique donnait des éléments presque diagnostiques pour comprendre la pathologie de la personne. Et on parlait d'ailleurs de symptomatologie de l'expression. Oui. C'est-à-dire que ça nous donnait des éléments, okay. Oui, pour comprendre en tout cas la symptomatologie de la personne. Et puis en parallèle du développement de la psychanalyse. Donc c'est développer une art-thérapie qui est dite plutôt traditionnelle d'obédience psychanalytique où on va interpréter les productions des patients pour servir aussi de support à la thérapie verbale notamment. Et donc, au regard de ce développement de l'art-thérapie, Richard Forestier notamment, il a développé l'art-thérapie moderne qui s'oriente quand même un petit peu différemment, en ce sens qu'il n'y a pas d'interprétation des productions. De ce qui résulte de la production. Donc on n'est pas dans une démarche analytique par rapport à ça. Et puis, c'est une art-thérapie aussi qui trouve ses fondements dans une approche psychologique un petit peu différente, c'est-à-dire le courant de la psychologie humaniste, donc, qui diffère un petit peu de l'approche de la psychanalyse et qui tend aussi à s'attarder sur ce qui fonctionne et ce qui marche, les capacités préservées des personnes pour travailler. Et donc, ça a permis aussi de tisser des ponts vers les domaines de la rééducation, davantage du handicap, pour aller vers des personnes aussi non-verbales, entre autres. Et puis, il existe plusieurs appellations aussi d'art-thérapie aujourd'hui en France.
Est-ce qu'on considère du coup que c'est une pratique de soins à part entière ou est-ce qu'elle agit en complément d'autres disciplines?
Alors, les deux.
Bah oui, c'est ça. Oui, oui, complètement. Elle est,
ça va dépendre des patients, du coup.
Ouais.
Oui, et puis dans quel cadre en fait on la pratique aussi. Par exemple, si on est art-thérapeute en cabinet libéral, là, l'art-thérapie, elle va vraiment être une pratique de soins à part entière, mais elle peut venir aussi en complément
du soin psychologique.
Voilà, du soin psychologique, d'un suivi médical, d'un suivi psychiatrique. Ou social aussi, dans le cadre des réinsertions socioprofessionnelles, de l'accompagnement au parcours migratoire, etc. On est vraiment soit elle entre en complémentarité au regard des objectifs qu'on attend, ou alors elle est vraiment utilisée comme discipline à part entière. D'accompagnement.
Il y a des personnes pour qui le rapport à la psychologie ou au verbal peut être un petit peu mis à mal pour diverses raisons. Et là, ça peut être intéressant d'aller proposer justement de l'art-thérapie et de passer par l'art pour
s'exprimer
non-verbalement. Pour s'exprimer, tout à fait, oui.
Ouais. Et puis après, on voit par exemple dans des parcours de soins qui sont plus difficiles, par exemple dans le cadre de chimiothérapie, l'art-thérapie peut vraiment intervenir comme un complément pour venir apaiser la personne et mieux supporter, par exemple, ses traitements.
Dans une idée, effectivement, d'améliorer la qualité de vie des personnes, et même alors en cancérologie, en soins palliatifs aussi, en gériatrie aussi, oui, de manière plus générale.
Oui, on a cité plein de choses sur les types de troubles qui peuvent être accompagnés par l'art-thérapie. Ils vont être très nombreux, mais quels sont les bienfaits de l'art-thérapie?
On a essayé de les énumérer. Non, mais en fait, c'est surtout quand on en parle, les bienfaits de l'art-thérapie vont s'expliquer notamment par ce qu'on appelle l'action neurophysiologique. C'est-à-dire que la pratique artistique, elle va créer des nouveaux circuits neuronaux et permettre une sécrétion d'hormones comme la dopamine, la sérotonine. Donc c'est des neurotransmetteurs qui vont sécréter différentes hormones, qui vont avoir des effets immédiats, par exemple sur la réduction du stress, la diminution de l'anxiété par rapport à justement la diminution du cortisol, de l'adrénaline, entre autres, enfin pour celles qu'on connaît le plus. Et donc, ça va avoir une incidence directe sur tout ce qui est estime de soi. On va reprendre confiance en ses capacités, on va réussir à mieux s'affirmer. On parlera d'amour de soi aussi. C'est comment on arrive à se sentir mieux dans son être. On parle de bien-être, de mal-être, mais c'est comment, au regard de sa pratique artistique, on arrive à être mieux, être bien, dans son corps.
Dans son corps et dans son esprit.
Exactement. Oui. Donc tous ces bienfaits-là, on va retrouver du plaisir à faire, du plaisir à ressentir, et donc une sorte de plaisir à vivre. On parlera de goût de vivre en art-thérapie. Et donc ça comprend vraiment tout ce qui est bienfait en termes de qualité de vie, qualité existentielle. On parle beaucoup de saveur existentielle aussi, retrouver une saveur de vivre. À travers cette pratique-là.
Oui. Et puis, pour compléter, si je peux me permettre, par rapport à ce que dit Marion, alors, aujourd'hui, il existe un rapport, qui relate un petit peu les effets, alors pas de l'art-thérapie sur la santé, plutôt les effets de l'art sur la santé. Et c'est un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, la particularité en art-thérapie, c'est qu'il n'y a pas toujours beaucoup de budget pour la recherche, forcément. Et donc, en fait, de par la France et puis l'Europe aussi, là où il y a des budgets pour la recherche, il existe quand même des études, mais c'est des études qui sont souvent réalisées sur des cohortes minimes. En tout cas, l'OMS a rédigé un rapport qui compile toutes ces publications scientifiques qui ont été validées. Et je crois qu'il y en a plus de 900 dans ce rapport de l'OMS de 2019 qui témoigne et atteste des effets de l'art, des bienfaits de l'art sur la santé. Là, ce n'est pas de l'art-thérapie, mais c'est l'art sur la santé. Alors, ça va des études en néonatologie, par exemple, écoute musicale pour améliorer les paramètres vitaux du bébé en néonat. Ça va sur l'impact analgésique d'une écoute musicale. Il y a beaucoup d'études, notamment sur la musique. Ça va aussi sur des études, ça parle aussi d'études quant à l'intégration sociale, comment la pratique des arts en collectif peut améliorer l'intégration sociale et d'une certaine manière... Derrière ça, il y a aussi la santé psychique et sociale des individus. Donc, en tout cas, il y a ce rapport qui compile toutes les études qui ont été réalisées et qui va dans le sens aussi de ce qu'explique Marion, c'est-à-dire des impacts neurophysiologiques de la pratique artistique, qu'elle soit contemplative, c'est-à-dire on vient recevoir des choses dans
les
la
regarder.
Réception.
Oui,
regarder. D'ailleurs, il y a un domaine de la science qui s'appelle la neuroesthésie. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps à la vue d'une œuvre d'art? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps? Et puis, ou que ce soit en faisant, en étant dans la pratique. Donc c'est intéressant, si ça intéresse, d'aller voir ce rapport qui, voilà, et qui parle de l'art-thérapie en tant que soin de support également et qui valide aussi l'art-thérapie.
C'est ça. Et donc là, on sera dans le soulagement de la douleur, de la souffrance, aider à mieux se connaître aussi, à restaurer ou retrouver un équilibre de vie et puis à trouver un moyen de, de s'adapter aux différentes problématiques rencontrées, en, comme disait Louise tout à l'heure, en travaillant et renforcer ce qu'on appelle les capacités préservées de la personne. Donc c'est ce qui va rester de sain, de positif, ce sur quoi on va s'appuyer pour qu'elle se dise, bah voilà, là j'ai l'impression que ça va pas, c'est compliqué, mais il me reste ça, je vais m'appuyer sur ça, et ça va venir renforcer tout un tas de mécanismes humains.
Est-ce que dans cette formation autour de l'art-thérapie, vous êtes, comment dire ça, il y a un apprentissage autour du fait de travailler en complément d'une psychothérapie, de se dire que ce sont deux disciplines quand même assez liées. Et est-ce que c'est envisageable, peut-être en travaillant de manière libérale, de travailler dans un cabinet qui inclut psychologue, psychiatre et art-thérapeute?
Tout à fait. Bah, souvent, en fait, dans les cabinets dans lesquels on est amené à travailler, il peut y avoir une équipe pluridisciplinaire. Mais après, un art-thérapeute, alors je ne sais pas si c'est pour ton cas, Louise, mais moi j'ai aussi une casquette de psychopraticienne. Donc il y a ce côté aussi psycho. Mais après, on peut être amené effectivement à travailler auprès de psychologues qui vont d'ailleurs nous amener, eux, des indications médicales, nous indiquer des patients pour lesquels l'art-thérapie viendra en complément de leur suivi psychologique. On peut être amené à travailler avec des psychiatres, mais aussi avec les médecins traitants. Les médecins traitants sont souvent ceux qui nous amènent le plus de patients, enfin, nous les indiquent, comme les pédiatres aussi pour les enfants. Et forcément, le travail pluridisciplinaire est riche parce qu'on s'intègre dans une équipe, on s'intègre aussi dans un projet thérapeutique auquel on va venir répondre, et on sera plus armé en équipe, forcément.
Pour accompagner les personnes.
Voilà, pour accompagner les personnes. On est dans la multitude de disciplines va faire qu'on va accompagner vraiment la personne dans sa globalité.
Donc justement, comment est-ce qu'on construit une séance d'art-thérapie?
Alors, une séance d'art-thérapie, on la construit à travers différentes étapes préalables. Déjà, avant d'envisager la séance d'art-thérapie, il s'agit d'avoir effectivement toute cette interaction avec l'équipe. Ça part toujours d'une indication de soi, alors que ce soit par un médecin ou par un professionnel avec lequel on travaille. Donc, une indication qui va nous faire rencontrer la personne. On va rencontrer la personne sous forme de séance. Alors parfois, on utilise la pratique artistique. Parfois, ça peut être aussi sous forme d'entretien. En tout cas, on va recueillir les goûts. On va faire tout un recueil de données qui est nécessaire pour comprendre, pour connaître, pour créer aussi la relation. Donc, à travers une première séance. Et puis, au regard de ce qu'on identifie, de ce qu'on observe, ce que nous dit la personne aussi sur ce qu'elle pourrait possiblement vouloir faire, on va déterminer, déjà on va essayer d'analyser les enjeux et la problématique, en lien aussi avec l'institution, parce qu'on n'a pas toujours la même analyse tantôt qu'on est placé sous l'angle éducatif ou sous l'angle médical, ça peut avoir un impact aussi sur notre manière d'accompagner. Et puis, donc, au regard de cette rencontre, on va déterminer des objectifs. Enfin, on va déjà se mettre d'accord sur une pratique à travailler qui nous paraît adaptée, alors de laquelle on peut changer parfois. Et puis, on va identifier des objectifs de travail et puis on va rentrer dans la pratique artistique, à proprement parler.
Donc, il y a ce temps de rencontre autour des besoins et des envies.
Oui.
Et est-ce qu'il y a des pratiques qui sont connues pour accompagner certaines pathologies mieux que d'autres, ou ça va vraiment dépendre du patient?
Alors, c'est un peu les deux. En fait, à partir du moment où il y a cette première rencontre, pour définir nos objectifs art-thérapeutiques, on va identifier la souffrance sur laquelle on va travailler. Et par exemple, si la souffrance de la personne, c'est des troubles alimentaires, des violences physiques, sexuelles, eh bien là, on va plutôt orienter notre pratique art-thérapeutique sur la danse, par exemple, qui va davantage travailler sur le schéma corporel. Si la problématique principale, c'est l'anxiété de performance, on pourra privilégier les arts plastiques et puis venir travailler principalement sur les ressentis, sur la sensorialité, plutôt que sur la représentation quelque chose de figuratif qui va venir à l'inverse renforcer l'anxiété, bah là on sera plus sur le ressenti pour décrocher de tout ça et puis essayer d'en sortir. Donc vraiment chaque pratique, elle est forcément orientée au regard de ce qu'on va cibler et au regard de nos objectifs. On ne va pas choisir de faire de la danse parce qu'on a envie de faire de la danse. Derrière, il y a un réel objectif de soins. Souvent, on voit sur les réseaux, et c'est, je le dis, ça m'arrache les cheveux, on entend art-thérapie, mandala, coloriage. Si on est amené, en tant qu'art-thérapeute, à faire des mandalas et du coloriage, c'est parce que derrière, on aura un objectif thérapeutique qui nécessite de faire du coloriage et des mandalas, comme des troubles de la concentration. Eh bien, pour venir travailler cette concentration, cette attention, il pourrait être bénéfique de faire des coloriages. Mais il faut vraiment que ça ait un sens.
On regarde les objectifs de travail.
Tout à fait. On ne va pas utiliser n'importe quelle technique comme ça. Il n'y a pas de hasard. On travaille notre protocole. C'est très rigoureux. On ne fait pas ça comme ça. C'est très étudié, c'est très analysé.
Et respectivement, Louise et Marion, quel support est-ce que vous utilisez le plus? Quels seraient vos domaines de prédilection?
Ah oui, alors de mon côté, moi, j'utilise beaucoup les arts plastiques. Alors, j'utilisais plus la peinture au départ et le dessin. Et puis finalement, j'utilise de plus en plus le modelage, beaucoup. Mais j'utilise toutes ces formes d'art. Et puis j'ai développé aussi le collage, qui est riche de possibilités. Et puis je travaille notamment par ailleurs avec la musique, le chant, la guitare et la percussion. Donc j'accompagne notamment beaucoup de groupes de femmes à travers la musique, et ce qui m'amène parfois, même si bon, je suis danseuse à mes heures perdues mais je suis pas danseuse professionnelle quoi. Mais parfois on est aussi amené à travailler à la danse, parce que la danse et la musique sont intimement liées. Donc je m'autorise aussi à aller vers la danse et de temps en temps à aller vers le théâtre pour ma part.
De mon côté, c'est aussi les arts plastiques. Mais plus particulièrement parce que j'aime cette pratique, c'est le collage. J'adore, on peut faire énormément de choses avec le collage, déconstruire, reconstruire, symboliser aussi. Et puis c'est une pratique artistique qui permet un peu de briser la glace dans sa facilité d'exécution, parce que les éléments, ils préexistent au sein de magazines, de papier. Donc la personne, elle a ces éléments préexistants qu'elle va venir chercher, qui vont faire sens, et elle va produire quelque chose avec, qui est plutôt gratifiant. Donc j'aime beaucoup cette technique. Après, je vais utiliser beaucoup l'encre, les pouvoirs de l'encre, parce que justement, quand on est face à des personnes qui sont très anxieuses, qui ont du mal à on parle de lâcher prise, qui ont du mal un petit peu à se laisser aller, grâce à la pratique de l'encre, qui est plutôt fluide et dont les effets sont, ne sont pas maîtrisés, ne sont pas calculables, là, il y a des belles choses à faire. Et puis, j'utilise aussi l'expression corporelle, parce que c'est pareil, c'est une pratique qui permet de se réapproprier son corps dans un espace donné, et on peut y aller de façon très progressive dans l'accompagnement notamment des femmes victimes de violences, où on est, quand elles arrivent, elles sont très repliées, très blessées, et quand on voit la progression grâce à l'expression corporelle, donc vraiment la mise en expression du corps par la musique ou pas, de façon très progressive, et qu'on voit, nous, cette ouverture du corps au fur et à mesure, je trouve ça assez magique, et c'est une pratique qui est vraiment chouette aussi. Donc c'est ce que je préfère.
Eh bien, merci à vous. On va faire une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Tours. On écoute une suggestion de nos invités. On écoute Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté et le titre Jarabi.
Thank you.
venez d'écouter Jarabi de Toumani Diabaté et Sidiki Diabaté sur Radio Campus Tour. Vous écoutez l'émission Sortez. Et nous sommes accompagnés de nos deux art-thérapeutes de l'AFRATAPEM. Donc, art-thérapeute, est-ce que vous diriez que c'est un métier vocation ?
Un métier vocation. En fait, je pense qu'on n'arrive pas, on ne devient pas art-thérapeute par hasard. Pour moi, il y a vraiment, une raison, un sens profond qui fait qu'on en arrive là. Et je pense qu'il faut aussi avoir cette envie d'aller vers l'autre, d'apporter quelque chose à l'autre, de faire en sorte que de trouver en fait nous-mêmes un sens dans notre métier pour pouvoir apporter du sens à la personne aussi que l'on accompagne. Donc oui, je pense qu'il y a ce côté très vocationnel dans le choix de ce métier d'art-thérapeute.
Oui, moi aussi je dirais que c'est un métier qui est lié aussi à... Enfin, qui est un petit peu un métier passion, parce qu'il faut être assez passionné aussi par la pratique artistique pour pouvoir travailler avec et la conduire dans un cadre thérapeutique. Donc je suis aussi assez d'accord avec Marion.
Après, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Peut-être que nous, en tout cas, c'est très vocationnel, mais je pense que beaucoup aussi arrivent dans ce métier avec une double sensibilité. On a la partie artistique, la partie humaine, et du coup, c'est un métier du lien, un métier d'écoute, de transformation, et je pense qu'à partir de là, voilà, comme je disais au début, on n'arrive pas par hasard. Et à partir du moment où toute cette composition-là nous parle, directement, voilà, on en arrive à là parce que le côté humain et le côté artistique, les deux mélangés, ça vient faire sens. Mmh. Et ça fait que là, oui, c'est vocationnel et passionnel aussi.
Quelles sont les qualités qui feraient un ou une bonne art-thérapeute ?
Alors, les qualités qui feraient un ou une bonne art-thérapeute, enfin, pour ma part, moi, j'identifie plutôt, alors déjà, avant tout, des qualités relationnelles dans la relation d'aide, voilà, en termes aussi d'empathie, capable de se mettre à la place de l'autre, des capacités d'analyse aussi, des qualités d'analyse pour comprendre aussi la problématique de la personne qu'on accompagne, les enjeux aussi de son accompagnement. Ça demande quand même des connaissances en psychologie, des connaissances sur l'être humain, des connaissances aussi sur l'art. Ça demande beaucoup de compétences artistiques pour pouvoir bien manier l'art qu'on utilise, que ce soit en termes de technique, mais aussi d'histoire de l'art aussi. Ça peut faire partie aussi des compétences artistiques. Et puis, j'aurais tendance à dire l'adaptation et l'organisation, parce que ça reste un métier rigoureux. Et donc, ça demande une bonne organisation pour pouvoir aussi répondre aux demandes et avoir un cadre sécurisant pour la personne qu'on accompagne.
Si je peux ajouter aussi peut-être justement cette capacité d'écoute, une certaine humilité aussi, la bienveillance. Le non-jugement, c'est primordial. Le non-jugement pour que la personne puisse justement se confier et être pleinement dans cet accompagnement-là. Et Louise qui parle d'empathie, moi je rajouterais à ça, c'est ce qu'on apprend au début de notre formation et je le garde précieusement parce que ça aide quand les problématiques sont... difficiles à entendre et émotionnellement... chargé, on va parler aussi de sympathie, savoir être en sympathie avec l'autre, c'est-à-dire pas forcément se mettre à sa place parce que c'est difficile de se mettre à la place de l'autre, mais en tout cas être en sympathie, ça va être le comprendre, vibrer avec l'autre le temps de la séance, un peu comme deux cordes de guitare, alors je suis pas musicienne mais l'image me parle bien, deux cordes de guitare l'une à côté de l'autre qui vont vibrer ensemble, qui vont partager un moment ensemble, mais chacun va repartir chez soi sans avoir pris de l'autre. Et c'est comme ça pour moi qu'on peut être un bon art thérapeute, parce que si on prend trop de l'autre et qu'on arrive avec les souffrances de l'autre en rentrant chez soi, c'est qu'on a dépassé nos limites et qu'il y a peut-être quelque chose là qu'on n'a pas bien fait et qu'il faudra revoir. Et donc cette notion de sympathie, pour moi, elle est primordiale parce que c'est ce qui va permettre d'accompagner la personne dans son entièreté, sans se laisser nous-mêmes submerger parce qu'elle vit au quotidien. Donc ce serait pour moi une aussi grande qualité à valoriser dans notre pratique.
Est-ce que vous diriez qu'on est quelque part médiateur artistique quand on exerce ce métier ?
Alors non, pas véritablement, parce qu'on ne fait pas de la médiation artistique dans le but
de comprendre l'art.
Oui, la médiation a un but, hein, c'est être médiateur, renforcer les liens, créer un espace de médiation. Mais c'est la place de l'art en fait qui est un petit peu différente par rapport à cette idée de médiation. Dans l'art-thérapie moderne, on va considérer que l'art est un processeur et pas un médiateur, c'est-à-dire que l'art, le processus qui l'engage, porte en lui les fruits qui peuvent générer une transformation chez la personne. C'est pas nous on accompagne le patient dans la pratique artistique, mais c'est la pratique artistique qui va être opérante. Vous voyez, elle va pas être médiatrice entre la personne et des objectifs. C'est l'art qui va permettre d'arriver à certains objectifs.
Le but, ça ne va pas être de comprendre l'art, mais vraiment de se comprendre soi-même par l'art et le processus artistique. C'est vraiment la grande différence.
Et donc, au final, est-ce qu'on ne serait pas tous des art-thérapeutes à notre échelle ? Par exemple, moi, je fais de la guitare.
Oui.
Imaginons qu'il y ait une personne ici présente face de la danse, qu'il soit lecteur, lectrice, dessinateur, dessinatrice. Tu le disais en off que la musique a une importance, du moins une force très importante dans notre vie.
Oui.
Là, maintenant, on pourrait mettre Billie Jean et je serais peut-être capable de reproduire toutes les basses à l'intérieur.
Mettons-le.
Est-ce qu'on ne serait pas tous, du coup, des art-thérapeutes déjà chez nous, en fait ?
Alors non. J'aurais tendance à dire, on serait peut-être tous des artistes, hein, parce qu'on a tous ce potentiel, en tout cas créatif, qui est plus ou moins développé. Enfin, en tout cas, le potentiel de s'exprimer aussi par d'autres moyens, et plus ou moins développé aussi, plus ou moins stimulé. Alors, je crois que derrière ta question, Samuel, est-ce qu'on n'est pas tous notre propre art-thérapeute ?
Ouais.
C'est-à-dire, est-ce que l'être humain pratique l'art pour se faire du bien et se soigner ? C'est un peu ça aussi qu'il y a derrière ta question. Alors, moi, j'aurais tendance à te dire non, parce que qui dit thérapie, dit thérapeute. Hein, la notion de thérapie implique une personne qui puisse accompagner ce processus-là. Après, que l'art, la pratique artistique, soit même de te soulager, de t'apporter des bienfaits, du bien-être et de peut-être aussi d'apaiser tes tourments, de te calmer. Ça, c'est les effets de l'art. Je ne sais pas ce que tu en penses,
c'est
Marion.
Chaque personne, et nous-mêmes art-thérapeutes qui avons une pratique artistique quotidienne ou hebdomadaire, enfin peu importe, mais on va expérimenter ses pouvoirs et ses effets de l'art. Mais si on n'avait pas cette casquette d'art-thérapeute, ça ne ferait pas de nous des art-thérapeutes. Ça ferait de nous des personnes qui expérimentent l'art à travers sa propre pratique artistique. Il faut préciser, et c'est pour moi indispensable, il n'y a pas d'art-thérapie sans art-thérapeute. On entend encore une fois dans les réseaux, dans les médias, on entend le mot art-thérapie à tout va dans les magazines. On ne peut pas faire d'art-thérapie si on n'est pas accompagné par un art-thérapeute. On va expérimenter les bienfaits de l'art, ça va faire du bien parce que, encore une fois, on met en avant les bienfaits neurophysiologiques de l'art et ça, c'est indéniable, ils existent. Mais quand on parle d'art-thérapie, comme on parlerait de psychothérapie, vous n'allez pas dire « je fais ma propre psychothérapie chez moi ».
On parle d'un procédé de soins avec un professionnel.
Exactement, tout à fait. S'il n'y a pas d'accompagnement par un professionnel, alors vous n'êtes pas dans le processus thérapeutique.
Ok.
Et alors, il y avait... on en parlait pendant cette pause musicale en off. Vous étiez très passionnée quand vous parliez. Où est-ce qu'on peut exercer ce métier ? Parce qu'en fait, il y a plein de raisons de solliciter une art-thérapeute et aussi plein d'endroits différents. Est-ce qu'on peut un petit peu revenir là-dessus ?
Oui, bien sûr. On parlait du cabinet libéral et de toutes les personnes et les problématiques qu'on est amené à rencontrer. Donc on peut exercer en cabinet libéral, c'est notre cas pour Louise et moi, où on va accompagner en individuel ou en collectif, on va accompagner les familles aussi à mieux vivre certaines situations. Mais on peut intervenir dans les institutions médicalisées comme les cliniques psychiatriques, les hôpitaux, les EHPAD, les centres sociaux ou encore aussi les entreprises. Par exemple, une entreprise qui va mal et qui veut prévenir ses salariés du burn-out, faire appel à un art thérapeute pour recréer du lien, identifier la problématique. On intervient presque comme consultant en art-thérapie et on va proposer des solutions au regard de différentes pratiques artistiques pour améliorer la situation et travailler justement sur une meilleure expression, sur une meilleure communication, sur un meilleur relationnel entre les équipes. Donc c'est vraiment, c'est très variable, on peut travailler...
Dans diverses institutions, même des toute institution qui accueille un public, alors soit fragilisé en souffrance ou dans le cadre des entreprises à risque, notamment de risques psychosociaux liés au burn-out, liés à toutes ces choses-là. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'art thérapeute dans toutes ces structures, pas systématiquement.
C'est bien dommage.
Oui, mais après, c'est une volonté institutionnelle. Il y a des notions aussi politiques, de budgétisation, qui font qu'il n'y a pas des arts thérapeutes dans toutes ces structures. Alors, il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent parce que les bienfaits sont manifestes et ça devient de plus en plus une évidence. Mais il y a encore des portes à ouvrir. Il y a aussi des associations, je pense aussi notamment les groupes d'entraide mutuelle, plein d'associations qui ont des vocations sociales aussi, qui peuvent proposer des ateliers art thérapeutiques ou parfois qui proposent déjà des médiations artistiques sans forcément d'art thérapeute aussi.
Tout à fait. Il y a aussi les écoles.
Oui.
De plus en plus d'écoles ou même des universités. Je suis intervenue dans une université pour justement renforcer la connaissance de soi à travers la pratique artistique. C'est plutôt novateur et ça change de pédagogie, mais c'est aussi une autre manière d'intervenir et d'utiliser l'art-thérapie à d'autres fins. Alors pas forcément dans une fin là, thérapeutique, parce que ce sont des grands groupes, mais quand même dans une visée sanitaire, donc c'est-à-dire prendre en compte le soin et le mieux-être des personnes qu'on accompagne.
Et effectivement, à l'école, à l'école d'art thérapie de Tours, on a ouvert des portes avec l'éducation nationale, qui est une grosse institution, grâce à une professionnelle qui est une collègue à nous, qui était anciennement professeur des écoles et donc qui a commencé à établir des partenariats avec certaines académies pour pouvoir faire rentrer des stagiaires en art thérapie. Et donc on aménage, alors ça s'adresse à des élèves avec des besoins éducatifs prioritaires, des EBEP, on aménage leur planning d'école pour qu'ils puissent assister à des séances d'art thérapie. Et parfois donc ils loupent des cours, mais pour aller en art thérapie, ça se discute en cellule de veille avec tout le staff éducatif. Et je trouve que c'est très prometteur parce que on a de plus en plus, il y a les professeurs et le corps professoral dans les écoles a de plus en plus de difficultés à faire face à tous les enfants qu'ils accueillent avec le développement des troubles 10, de toutes sortes de problématiques, harcèlement scolaire. Et on aurait vraiment intérêt à développer aussi cet accompagnement dans le milieu éducatif et scolaire, je trouve.
C'est aussi valable pour le milieu des forces de l'ordre et des armées.
Oui, vous parliez de traumatisme tout à l'heure.
Exactement. Ouais. J'étais moi-même militaire avant. Et aujourd'hui, accompagner les militaires en état de stress post-traumatique dans n'importe quelle institution militaire, ça fait partie aussi des enjeux de l'art-thérapie. Parce qu'en termes d'accompagnement, parfois, suivant la gravité du trouble dont souffre la personne, elle ne va pas être en mesure de pouvoir parler, de pouvoir exprimer. Quand on vit des traumatismes de guerre, le verbaliser par des mots, c'est très très compliqué. Ça touche aussi beaucoup le milieu des hommes Et on aura beau dire ce qu'on veut, mais les hommes, de par l'éducation, ont cette réticence à parler parce qu'ils doivent être des rocs et qu'on ne dit pas les choses, donc ils gardent tout. Et grâce à l'art-thérapie, on va être sur une autre forme d'expression. Et le fait de s'exprimer par le corps, par la production artistique, va permettre d'extérioriser les choses et de se rendre compte qu'on a encore beaucoup de choses en soi sur lesquelles s'appuyer, pouvoir venir valoriser ça, renforcer ça et s'extraire petit à petit du trouble dont il souffre.
Alors là, je digresse un petit peu, mais est-ce que dans l'armée, il y a justement maintenant un point qui est mis à l'honneur, c'est-à-dire d'apprendre à parler, parce que c'est une profession qui peut ne pas être simple.
Parce qu'ils sont accompagnés.
On peut être confronté à des choses très très dures. Voilà, est-ce que maintenant on accompagne mieux ça et on dit non, parler justement.
On accompagne. Il y a toujours eu des accompagnements psychothérapeutiques. Il y a des psychologues qui sont sur place. Il y a vraiment des pôles dédiés. Le service de santé des armées, ce sont des pôles dédiés à la prise en soin des militaires. Il y a aussi les hôpitaux d'instruction des armées qui sont vraiment là pour prendre en charge le traumatisme de guerre avec des services de psychiatrie qui sont dédiés. Dans ces services-là, il y a des art-thérapeutes, mais c'est pas encore assez développé. Pour moi, il faudrait, je le dis, je lance un appel, il faudrait absolument, mais comme dans l'éducation nationale, c'est des institutions qui mériteraient d'avoir une complémentarité de soins avec l'art-thérapie, parce que, encore une fois, les bienfaits de l'art ne sont plus à prouver aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, c'est validé. Voilà, c'est toujours une question de budget, mais il faut aussi savoir où on met le budget, où est-ce qu'on veut faire changer les choses aussi.
Et parce que 17h va retentir, nous allons devoir mettre un terme à cette émission.
Est-ce qu'on peut faire une petite dédicace ?
Bien sûr !
Ah ouais ! Alors,
nous écoute.
On fait une big dédicace à toute l'équipe de la FRATAPEM, pédagogique, administrative, à tous les étudiants. Allez, pourquoi pas ?
Oui, c'est ça.
Moi, je fais une petite dédicace à mes collègues de l'association Psy Sans Frontières, qui est une asso de Tours qui se développe et qui accompagne les personnes qui sont atteintes de traumatismes dans le cadre de parcours de migration. Enfin, voilà, pour ma part, voilà mes petites. Et puis évidemment à toucher les gens que j'aime.
Ah oui, c'est ça. Des bisous à tout le monde.
Voilà.
Moi aussi, j'ai trop d'amour à donner. Ma famille, et tout ça. Nos collègues, non, bien sûr.
Ouais. Voilà, c'est fait. Merci à vous, Samuel.
Merci beaucoup, Louis Stufet et Marion Boquier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc on peut retrouver la FRATAPEM sur leur site internet.
Yes. Oui, tout à fait.
À des réseaux sociaux aussi.
Oui. Oui, on est actif sur Instagram, sur Facebook aussi.
C'est ça, tout à
fait.
Et
puis, il y a un standard qui, avec Louisa au standard, qui répondra à diverses questions s'il y en a. Donc,
si ça vous dit de devenir art-thérapeute,
oui.
Osez, si vous sentez le l'appel vocationnel, eh bien, c'est que c'est
et passionnel.
Et passionnel.
Et venez, si on veut se déplacer, du coup, ça se situe où, la FRATAPEM?
Alors, c'est Tour Nord. Hein.
C'est Tour Nord, rue Daniel Meilleur.
Oui, c'est rue Daniel Meilleur, 8 bis.
Oui,
rue Daniel Meilleur.
Merci beaucoup. Comme ça, on a l'adresse complète.
Voilà, exactement.
Et tout pour vous retrouver. C'est parfait. Et ben, je vais laisser la place à Samuel parce que tu avais préparé une chronique pour
exactement,
cette émission.
Exactement, exactement. En ce moment, la sphère que vous utilisez est un peu unanime sur certaines questions, notamment sur un certain jeu qui est sorti il y a déjà 13 ans. Il s'agit bien dit non de Call of Duty Black Ops 2 et on va écouter ça tout de suite. Hey, c'est Noname sur Radio Campus Tour. En ce moment, la sphère Call of Duty est un peu enflammée, notamment face à l'annonce du nouveau jeu du même nom qui sort en octobre prochain. Mais je suis pas là pour vous parler de ça, mais plutôt d'une autre actualité qui fait grand bruit chez nous les fans de la licence. Est-ce que vous vous rappelez de ma chronique sur Call of Duty Black Ops 2 ? Et ben, les événements du jeu commencent à devenir assez réels, voire même bien trop réels. Laissez-moi vous faire un petit rappel de qui est Raúl Menéndez. Raúl Menéndez est le principal antagoniste de Call of Duty Black Ops 2. C'est un Nicaraguayen à la tête d'un puissant cartel de drogue hérité de son père, assassiné par la CIA, ce qui nourrit sa haine profonde envers les États-Unis. Marqué par une enfance difficile, la mort tragique de sa sœur Josefina lors d'une opération américaine le pousse à devenir un chef de guerre charismatique, intelligent et revanchard. Il fonde alors, quelques années après, l'organisation terroriste internationale Cordis Dié, à travers laquelle il orchestre des attaques massives contre les grandes puissances mondiales et cherche à bouleverser l'ordre mondial. Et là, accrochez-vous, rentrons dans le fictif, ou clairement, peut-être pas. Nous sommes le 19 juin 2025. Mason et ses alliés sont en course contre la montre pour retrouver Menendez. Le JSOC finit par trouver la source des transmissions responsables du piratage des systèmes de défense américains. Il se trouve en Haïti, là où la section dirige les forces du JSOC pour reprendre l'installation et appréhender Menendez. Et c'est donc parti pour la mission Judgment Day. Execute kill capture order on target Raul Menendez. I broke kill. Taking him alive didn't work out last time. On est parachuté sur la zone du combat, manquant de se faire heurter par un hélico.
Stay status.
Establish containment western flank, 100 series buildings.
Mason et ses équipes réussissent à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment, éliminer les derniers soldats de Cordis Dié et trouver le centre des transmissions. Sauf que...
My console crashed. What do you got? Can you get in?
Raul Menendez is transmitting a live webcast. He's on right now.
I'm locked out. Can you hack into the system?
They thought I wanted to kill the president.
We're fucked.
Doña Presidente, I could have buried you a million times over. No. I wanted you to see it. To feel what it's like.
The drones are being controlled from Haiti.
What?
Sir, there's nothing more we can do.
Today,
we cannot regain access to the drones.
2 billion people exist in abject misery.
He's ready to strike New York. We gotta stop it.
Doña Presidente.
What the fuck?
The war machine.
He self-destructed the drones.
Your military.
Why?
He's crippled. You cannot stop us now.
Un uniforme a été volé sur un soldat mort, sûrement par Menendez pour couvrir sa
tête.
Mais Sonny Weaver s'enfonce dans le bâtiment à la recherche de celui qui a tué son père. Un plafond s'effondre. Menendez est devant lui. Et après une scène t'as les plus grands films d'action avec voilà les ralentis là. Le choix est entre vos mains. Le tuer et vous lancer l'une des plus grandes guerres civiles de l'histoire, menant à un monde sans leader mondial, face à ses deux grands rivaux, la Chine et la Russie. Ou s'abstenir, une soif vengeresse, et le laisser se confronter à la cour internationale.
I got you, brother.
Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, les plus grandes puissances mondiales sont au bord du gouffre. Demain, selon la chronologie de Call of Duty, Menendez publie une vidéo sur YouTube. un cri à la révolte. Coradis dit, levez-vous.
This video is triggered to play upon my assassination. Cordestier, you know how to proceed. My death will shine light upon ubiquitous darkness.
Entre les guerres qui font rage et les émeutes qui surgissent aux États-Unis en ce moment, ce jeu n'est qu'à quelques heures de réellement rentrer dans l'histoire. Black Ops 2 a réussi à prédire la montée en puissance de ces multinationales, contre les populations les plus précaires. Black Ops 2 a réussi à prédire une guerre civile sur le point d'éclater dans une des plus grandes nations mondiales. Et encore mieux. La Chine a récemment découvert un nouveau minéral appelé... j'ai pas envie de dire le nom, mais... je vais essayer. Niobobaotite. Niobobaotite. Dans le plus grand gisement de terres rares au monde, situé en Mongolie intérieure. Ce minéral contient du niobium, un métal stratégique très recherché pour ses propriétés exceptionnelles, notamment sa résistance à la corrosion, sa haute température de fusion et sa supraconductivité. Le niobium est essentiel dans de nombreux secteurs de pointe, comme l'aéronautique, l'énergie nucléaire, l'électronique, l'automobile et le médical. Une chose qui, comme de par hasard, Menendez a aussi utilisé. Dans cet univers, c'est plutôt le Celerium, une puce capable de hacker tous les systèmes de défense internationale à l'aide aussi d'un nouveau minéral, découvert par la Chine. C'est terrifiant. Nah, en 2012, je me disais que 2025, c'est dans large longtemps. On a le temps d'imaginer tout et n'importe quoi. Mais une troisième guerre mondiale, les gars, c'est pas professionnel, je suis pas d'accord. D'ailleurs, les gars, vous voulez pas reporter la date, là? Parce que moi, j'ai plein de trucs à faire, hein. J'ai que 20 ans, moi. Et j'ai encore rien fait de ma vie. Genre, mon permis, tout ça, et tout, je dois me marier, avoir des enfants, parce que... Histoire de troisième guerre mondiale, je pense que pour nos générations... Voilà. Clairement, on la prend pas au sérieux. Je pense que vous avez tous regardé un peu les réseaux sociaux. Nos générations, c'est la plus pas sérieuse depuis une centaine d'années, je pense. Quand je disais dans ma chronique que ce jeu m'a marqué, c'est au point que même si il est fictif, j'adhère à l'idéologie de Menendez, de détruire ces ultra-puissances capitalistes qui agissent au détriment de milliers, voire de millions de morts à travers le monde, et de reprendre le contrôle de notre existence. Tous ces conflits, même s'ils nous semblent éloignés, vont certainement nous affecter, en bien ou en mal. Surtout, la chose qui est, selon moi, la plus importante en tant qu'Occidentaux, c'est notre confort de vie, notre manière de vivre. Tous les biens matériels ou financiers qui nous permettent de vivre convenablement, voire même dans les meilleures conditions possibles. Franchement, ce jeu, même aujourd'hui, il résonne en moi comme le jeu, que ce soit là, je parle seulement de la campagne et de Menendez, qui est pour moi l'un des plus grands antagonistes du monde géovidéoludique. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui se lèverait là, comme ça, et dire, venez, faites des attaques pas légales. Moi, je vous invite à vous poser quelques petites questions, notamment la plus importante selon moi. Est-ce que Corzis Dié ne serait pas la voix de la raison? C'était Nonem sur Radio Campus Tour. À la prochaine. Eh ben alors, vous en avez pensé quoi de cette petite prédiction? Franchement, c'est clairement terrifiant. À quel point est-ce que c'est si précis? Mais bon. On va se laisser sur une touche de musique. Le podcast de cette émission est à retrouver sur Radio Campus Tour. On écoute Gemma et le titre Kitchen et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Me bleed inside, but I reminisce sometimes about you and I. It's a miracle I'm not laid up with sometimes. I thought of no one I'd die, yet here I am alive. It's unbearable. Yeah, sure, I do. Yeah, sure, I do. Yeah, sure, I do. Yeah, sure, I do. There's things I can pretend I need one day. I figured if I need you, that's when I can see you. Cause we both don't wanna stay. It's crazy cause they were alright. What on earth do you see in that guy? But that's because they don't know. Self-esteem was so low. It made you seem more than alright. But I cry alone and lie for my inner child. It's impossible for me to lay up with some girl. I know too much now, can't pretend to try. It's unthinkable. It's a four-dot line of bed. I cut and dye and bleach my hair. Don't wanna look like the girl you touch, but still the mirror, it says too much. Never again will I ever rush and make something out of nothing. So call it love. I got two times, one was two steps. Boy, I'm too tired, so it's good luck.
C'est-à-dire
comment ouais, je rame.
Rame donc. Rame, Samuel.
On va passer à la, une prochaine question.
Comment est-ce que je peux faire ça? Hop. Magnifique, ça sort pas.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.